Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Try Again. Merci à Vincent et Clotilde pour la première heure plus next-gen. Nous, ce soir, on va parler d'un jeu... je sais pas comment le qualifier, en fait, j'aurais beaucoup de mal.
On en parlera, on donnera notre point de vue après, Martin.
En fait, je vais vous présenter...
N'influençons pas l'auditeur.
Je n'influence rien, je vais dire que c'est un jeu que Elie a choisi, donc bonsoir Elie.
Bonsoir, bonsoir.
Et qu'il a déjà parlé, bonsoir Lionel.
Bonsoir Martin.
Et bonsoir Miss, parce que quand même, honneur à toi aussi. Hein. Je vais te pas faire passer en dernier.
Moi,
ce soir.
J'aime bien comment on a introduit le sujet quand même. Hein. C'est le jeu d'Elie, donc voilà.
C'est Nelly qui a dit, choisis-le, il est trop bien.
Non, pour être franc, il faut quand même vous dire que ce soir, on a un gros débat pour la dernière partie. C'est Elie contre le reste du monde.
Elie, c'est Elie versus The World.
Non, mais vous êtes désavantagé, quoi.
Ça annonce juste la couleur. En première partie, Nelly va nous parler de l'historique du FPS.
Tout à fait.
Si je ne m'abuse.
La seule partie qui va être jusqu'en gros.
Voilà. Et Elie va nous parler dans ses retranchements d'un jeu qu'il aime. Il s'agit de Doom 64.
Bah, c'était Lunel qui devait faire cette partie, non?
Assume.
Il essaye en plus de faire croire que c'est même pas lui, quoi. C'est quand même très, 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 très fort. Donc voilà. Moi, je vais commencer par faire un peu de pub, parce qu'on en fait. Temps à autre, un petit peu toutes les semaines. Il faut continuer des bonnes choses comme ça, faut en faire un petit peu, toujours un petit peu. Donc oui, on est sur le chat, oui, on aime réagir avec vous, oui, on vous aime bien, donc oui, posez-nous des questions. Et oui, cette semaine, vous pouvez retrouver sur le podcast les jeux Amstrad CPC qu'à l'époque, il nous a fait découvrir. C'était une superbe émission. Moi, je me souviens avoir passé un super moment dans cette émission-là.
Ouais, c'est vrai.
Exactement. Quelque chose qu'on connaissait très peu, on a bien aimé, quoi.
Voilà, donc si vous
avez un bon retour.
Si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir écouter cette émission lors de sa première diffusion, retrouvez le podcast sur notre forum où il faut s'inscrire et se loguer, c'est le seul endroit où vous l'aurez.
Et moi j'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis qui aiment le catch parce qu'ils participent pas mal sur les forums.
Ouais.
Donc voilà, on vous aime, on aime le catch et continuez à nous écouter. Voilà.
Comme j'aime le catch, tu m'aimes aussi, c'est très bien.
Voilà.
Et puis maintenant c'est parti, on va s'écouter une musique de la version Super NES Doom qui a été composée par Robin Prince et ça s'appelle Doomsgate.
M57 Radio.
Try again.
Nous voici déjà de retour dans ce nouveau numéro de Try Again, je ne trouve pas d'autres mots. Nelly, parle-nous de l'histoire des pièces. Apprends-moi quelque chose.
Comment parler de Doom ? Non, en fait, comment parler de Doom sans commencer par parler du genre que ce jeu a inspiré, c'est-à-dire le Doom-like. Alors, jouer à un Doom-like, c'est incarner dans un jeu, en général 3D, ou en simili 3D, un personnage dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire que on est dans le corps du personnage et on va avoir son angle de vision, son champ de vision, et en général le but va être de tirer sur les ennemis. C'est pour ça qu'on parle plutôt de first person shooter. On en avait déjà un peu parlé lors de GoldenEye.
Oui, on a changé l'appellation pour être plus général, quoi.
Voilà.
Ouais, on y a perdu d'ailleurs.
On se retrouve en général dans le first person shooter. On a un petit côté cinéma. Ça m'a fait penser un petit peu au film Dans la peau de John Malkovich, quand la caméra représente l'angle de vision, enfin la vision du personnage, quoi. Alors évidemment, ce style permet une véritable immersion dans l'univers vidéoludique qu'on nous propose, et on se retrouve vraiment au cœur des actions, au cœur des batailles, au cœur des affrontements, d'où un succès très rapide de ce style. Et d'ailleurs, comme je faisais la parenthèse avec ce cinéma, ça a été pareil au cinéma. Si on prend par exemple le projet Blair Witch, alors on se retrouvait pas forcément dans le personnage, mais on était à travers la caméra qui filmait, et c'est vrai que c'est un film qui avait fait sensation à cette époque-là, parce qu'on était immergé dans l'action, on avait l'impression d'être un des personnages du film. Donc là c'est pareil, on essaye de donner l'impression qu'on est le personnage du jeu. Alors évidemment, ce jeu va émerger avec les débuts de l'utilisation de la 3D dans les années 90. Et même si on dit Doom-like, et ben ce n'est pas Doom qui a été le premier du style.
Mais quel a donc été le premier ?
Alors, le premier exactement, c'est comme pour tous les styles, on ne peut pas exactement dire le premier, mais disons le nom qui revient, qui a inspiré ce style, c'est Mazoir sur PC. Où en fait on évoluait à travers un labyrinthe, et donc on avait cette vision comme si on était à l'intérieur du personnage qui se promenait dans le labyrinthe. Et très vite on a essayé, enfin ça a bien marché, cette façon de s'introduire dans le personnage, et très vite on a eu la possibilité de brancher deux machines pour être deux à se balader en immersion dans le labyrinthe. Et comme on était deux dans le labyrinthe, quoi de mieux que réussir à se shooter l'un l'autre, de s'attaquer l'un l'autre, etc. J'ai fait une boulette.
Non.
Ils me regardent tous avec un regard.
C'est passionnant.
Il devait y avoir des connotations, je ne sais quoi. Enfin bon, bref.
Oh, si peu.
On va s'introduire sans rien du tout.
Ah d'accord, ok. Donc voilà, donc c'est comme ça a priori que ça a commencé. Il y a d'autres inspirations, mais enfin disons que celui-là c'est un des noms qui revient très souvent. Et puis ensuite, alors je vais pas tous les citer, mais disons les noms qui ont marqué. En 91, il y a eu Catacombes 3D, où on va voir pour la première fois, donc toujours on a cette vision du personnage, mais on va voir la main du personnage. C'est vrai que dans les first person shooters, souvent on a la main qui va soit se combattre à la main, soit avoir un outil, soit avoir une arme, et on a l'impression que c'est notre main qui en donne des actions à faire.
Un jeu un FPS style Hexen, en fait, avec un magicien qui balançait des sorts, donc Catacombes Abyss 3D. Ouais.
Bah, tout à fait. On peut aussi citer en 92 Wolfenstein 3D, qui a bien popularisé le genre. Hein.
Ouais.
Tu es des nazis.
Ouais, tout à fait. Le
déjà,
côté un peu glauque
de
l'univers.
C'est
hein.
Eux qui l'ont fait, John Bonham.
C'est les mêmes, ouais. Et puis, suivi donc notre très cher Doom. Alors c'est vrai que Doom, ce qui va marquer beaucoup les esprits, c'est qu'à partir de Doom, on va se balader sur plusieurs niveaux avec des plateformes, et je pense que c'est ça qui a pas mal popularisé, enfin qui a fait le succès, on va dire, de Doom, puisque jusqu'à ce moment-là, on se baladait dans un niveau qui était très plat. Donc là, on a beaucoup plus de possibilités de se balader et de visiter les mondes. Ça met un petit plus.
Ouais.
En 96, il y a eu Duke Nukem 3D. Et là, la nouveauté, c'est que... alors, dans Doom, on pouvait déjà sauter, mais pas volontairement. On sautait par-dessus des choses, mais sans le vouloir. Là, il va y avoir vraiment les boutons pour sauter, pour s'accroupir. Donc, ça rajoute aussi un petit plus qui nous fait...
On peut même voler dans Duke Nukem 3D.
Avec un jetpack.
Voilà. Donc, ça nous immerge encore plus. GoldenEye dont on avait parlé, ça c'est on va pas passer encore du temps dessus, mais
Nintendo 64,
évidemment
hein.
Voilà, en 96 Quake, alors cette fois-ci avec des environnements et des ennemis entièrement modélisés en 3D, c'est plus de la 3D simulée comme dans Doom, avec des mouvements de caméra véritablement précis qu'on peut monter, descendre, aller à droite et à gauche, et là aussi ça a marqué son temps, puisqu'on peut aussi dire un Quake-like.
Parce que Quake, quand tu avais un truc particulier, c'était qu'il y avait. Tu pouvais aller genre sous l'eau et t'avais une barre d'énergie pour l'eau. Et donc après, quand le personnage sortait de l'eau, tu l'entendais faire.
Respirer.
Donc il avait pas mal de choses comme ça qui le rendaient un peu plus réaliste.
Comme dans Quake,
t'as aussi le Rocket Jump aussi.
Voilà, le Rocket Jump a été inventé pour Quake. Donc Quake a été un gros succès. Enfin, moi, je me souviens quand j'ai joué quand il est sorti et c'était vraiment une claque.
Ouais, c'était une claque par rapport à tout ce qu'il y avait. Bon, même si GoldenEye, on en a parlé.
Mais GoldenEye, c'est après.
Oui, GoldenEye, c'est après, oui, pardon. Après, ouais. 98, Unreal. Donc là, genre science-fiction, extraterrestre qui débarque. Etc. Donc ça a bien marché, l'univers a bien fonctionné. Half-Life aussi, qui est un univers aussi futuriste, puisque c'est des histoires de téléporteurs qui vont nous amener des créatures un peu bizarres sur Terre. Plus le temps va passer, comme tu l'as dit Martin, plus les scénarios vont se complexifier, devenir magnifiques, etc. Et on a aussi pris une grosse claque avec Deus Ex 2000, puisque là, il y a véritablement un scénario digne d'un film qui se fait autour de ce jeu. Alors évidemment, ça tourne autour du style science-fiction, horrifique, espionnage, fantastique, enfin, c'est vraiment un style qui s'y prête. Aujourd'hui, il y a des croisements, il y a des jeux qui font des petites parties en first-person shooter, Fallout 3 par exemple, il y a des petits passages en first-person shooter. Et puis moi, mon préféré en ce moment, du moment, c'est Call of Duty Black Ops, avec les hordes d'ennemis, les hordes de zombies que l'on a.
Ça fait des semaines qu'il trust les places dans la première heure qu'on entend dans la génération Prestart, où on entend que voilà, il est toujours là, Black Ops. Il y a une raison à ça, c'est qu'il est bon.
Ouais, il est génial.
Ouais, et puis bon, c'est Call of Duty surtout.
Enfin, nous, ça nous arrive quand on joue en multi, il y a un zombie qui nous attaque par surprise, on s'entend hurler à travers les micros, quoi. Ah, un zombie qui m'attaque, à l'aide! C'est génial, quoi. C'est génial, on est dedans.
Ouais, le mode zombie est sympa.
Ok. Bah écoutez, moi je vous propose d'écouter une musique de la version PlayStation de Doom. C'est une musique du niveau de la boîte de nuit qui a été composée par Aubrey Hodge. J'espère que j'ai pas écorché son nom, et puis voilà.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Dire, c'est que cette musique, ça change de ce qu'on entend d'habitude dans les
musiques.
Là, franchement, de la techno hardcore comme ça, moi j'aime bien, mais je pense que tout le monde n'a pas dû aimer.
C'est la boîte de nuit, ça ressemble à du Thunderdome.
C'est pour ceux qui sont en dessous de Thunderdome. Bon, écoute, Eddie, à toi, hein, on te laisse la parole pour Doom 64, j'ai dû le dire.
Ouais, je vais commencer par vous parler de Doom 64, donc la version sur Nintendo 60, comme son nom l'indique. Après, je vais un petit peu parler des autres Doom qui sont sortis. Voilà. Donc, Doom sur Nintendo 64, c'est un FPS fait par Midway et par ID Software. Il sort en mars 97. Une petite anecdote sur l'obtention du jeu. Un beau jour, il y a mon petit frère qui rentre à la maison avec deux jeux en loose. Il y avait le jeu de foot et sur 64 et celui-là justement Doom 64. Je dis pourquoi t'as acheté ces jeux, ils sont mauvais et tout. Il me dit ah non, ils étaient pas chers et tout, c'est une bonne occasion. Je dis bon, et finalement j'ai commencé.
Et finalement t'avais raison.
Non, finalement
son frère avait raison. Son frère avait raison, pas lui.
Il avait raison parce que les jeux étaient vraiment sympathiques. L'autre pour tir au but, ISS 64.
Ouais.
Et celui-là j'ai bien accroché assez rapidement.
Oui, c'est 64, était sympa. Ouais. Ouais. Mais en jeu basique, ouais, il était bien.
Ouais, c'est pas le sujet du jeu.
Pas du tout, hein, pas du tout.
Non, enfin, non, mais à la limite, on essaie de détourner l'attention d'Eli, tu vois. On se dit, avec un peu de chance, on parlera pas trop de Doom 64.
Mais c'est vrai qu'on parle pas assez de foot, hein. Donc, ils utilisent le moteur graphique de Doom Engine, mais une version modifiée pour la version 64. Donc, c'était...
Oh, très peu, très peu.
Ouais, ça ressemble beaucoup, mais... Donc, c'est un jeu où il n'y a pas de censure. Donc, on a de la chance, on a du sang, on a des ennemis qui explosent. C'est un jeu 16+. Et c'est une exclusivité de la Nintendo 64.
Wow.
Je m'explique. Les autres Doom qui sont sortis, ils sont différents. Celui-là, il a vraiment été créé juste pour celui-là. Le niveau, ils sont inédits.
C'est pas des portages, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, le jeu, il porte 32 niveaux, dont certains qui sont cachés. Et Doom a tellement marqué les esprits, là, je parle de la version PC à l'époque, qu'on a appelé Doom-like pour les FPS. On s'en l'a déjà dit avant, mais c'est toujours important de revenir là-dessus.
Ouais, mais on est revenu maintenant. Hein. Ils ont passé de mode. Hein,
et à un moment, on parlait de Quake-like aussi.
Ouais.
Ouais.
Oui, mais c'est aussi fini. Maintenant, on est passé au FPS. Voilà.
C'est fini, c'est fini. Donc, je vais vous parler un petit peu du scénario du jeu.
Ah, il y en a un ?
Ah, bah oui, un FPS sans scénario.
Alors, écoute, moi, je sais pas, je l'ai pas vu, mais vas-y, raconte.
Si, si. Alors, vous êtes un militaire chevronné qui a frappé un de ses supérieurs.
Voilà. Ça, c'est dans la notice que tu le sais, en fait.
Oui, oui. Ouais. Je l'explique dans la notice. C'est un petit peu pareil dans tous les Doom, d'ailleurs, à quelques différences près. Alors, pour le punir, ses supérieurs, ils l'ont expédié sur Mars.
Ils sont dégueulasses.
Ouais, c'est moche.
Non, mais c'est légèrement futuriste, quand même, l'univers. Donc, sur Mars, plan-plan, il n'y a pas trop d'action. Voilà, c'est pour le punir. Jusqu'au jour où il y a des chercheurs qui font des recherches, forcément. Ils trouvent.
Oh, exceptionnel. Alors, des trouveurs, c'est plus des chercheurs.
C'est des trouveurs, mais pas pour longtemps. Parce que qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des démons. Les démons, ils massacrent les chercheurs. Et ils transforment les frères d'armes de notre militaire préféré en zombies. Mmh. Ah, c'est terrible.
Mmh. Ouais, terrible.
Et alors, ils se font tous avoir et on compte vraiment sur notre. Meneur d'hommes, enfin meneur de zombies.
Et pourquoi lui, il n'est pas converti en zombie?
Bah en fait, il s'est pas fait avoir parce qu'il s'est battu.
Mais contre qui?
Contre les démons. Ah, contre les démons. Faut suivre un peu.
Il ouais, y a des âmes perdues, les démons, tout ça, c'est.
D'accord.
Donc on évolue vraiment dans un univers glauque et on doit se battre avec toutes les armes qu'on trouve pour désinguer du monstre, du démon à toutes les sauces. Voilà. Ensuite.
Et quand on meurt, on se retrouve aussi en zombie?
Non, non, non. En fait, quand on meurt, on voit comme c'est la caméra du personnage qui tombe au sol. Et ouais. Si on attend un petit peu, il y a des petits cris marrants qui disent « tu t'es bien fait voir », des trucs horribles qui passent. On voit la vision qui se trouble avec du sang qui dégouline. Bon, très pixelisé, je vous le sais, concède. Je vais vous parler un petit peu des armes du jeu. Parce qu'il y a quand même différentes armes qui sont fort sympathiques et qui ont inspiré tous les FPS suivants. Alors, on commence, on a le poing américain, donc on peut donner simplement des coups de poing, hein, et on a le pistolet, donc ça c'est l'arme de base, qui permet quand même de tirer à distance. Ensuite, on a la tronçonneuse qui, dans Doom 64, a double chaîne, plus efficace.
Ouais, je l'ai essayé, elle est sympa, mais bon.
Ouais. On a le fusil à pompe, on peut trouver aussi le fusil à pompe à double canon, pour donner une double dose à chaque démon qu'on rencontre.
Est-ce que quand tu utilises le double canon, il utilise deux balles
ouais,
pour tirer?
À chaque fois, il tire les deux en même temps.
D'accord.
On trouve la mitrailleuse. Donc ça c'est particulièrement efficace parce que quand tu tires sur un ennemi ça le paralyse, il a du mal à réagir. Bon, quand t'en as plusieurs c'est
l'espèce de sulfateuse là avec ouais. Le truc qui tourne au bout.
Ouais ouais ouais, comme une clean.
Ouais c'est ça.
Ouais. On a le lance-roquette, assez classique. Et ensuite on a les armes un petit peu futuristes. Il y a le fusil à plasma, le BF-9000. Alors ça c'est la grosse arme de bourrin qui tient une grosse boule verte qui... T'as pas beaucoup de munitions,
c'est
mais.
C'est super lent, non, aussi comme arme.
Ouais, t'appuies, ça tire 3 secondes après. Mais par contre, ça zingue quasiment tous les ennemis qu'il y a dans une salle, quoi. Mmh. Bon, il y a les gros démons, il faut quand même plusieurs coups. Et spécificité à la version Doom 64, il y a le laser démoniaque. Alors, dans une arme, un gros laser rouge.
Il est plus puissant ou pas que le BF-9000?
Non, mais il tire des lasers à l'unité, en fait.
Il est plus rapide?
Ouais ouais, il est très rapide, très maniable.
Bon, il est plus rapide mais un peu moins puissant, ouais. Donc c'est un bon compromis en fait.
Et comme le fusil plasma, ces trois armes, elles utilisent les mêmes munitions. Donc faut faire attention.
Ok.
Et on peut éventuellement aussi trouver le laser démoniaque triple. Il tire dans trois directions et celui-là il est aussi très très costaud. Celui-là utilise l'ennemi très rapidement. Donc je voulais vous parler de John Romero, qui est le game designer de ID Software. Donc c'est lui qui a fait Wolfenstein 3D, qui a fait les Doom entre autres. Je vous en reparlerai dans la fin du truc, parce que dans Doom 2, il y a une fin spéciale où il interagit.
D'accord.
Je vous ai pas parlé du mode Berserk. Vous savez ce que c'est le mode Berserk ?
Non, dis-nous, Edith, ce que c'est. Je ne sais pas.
Alors, moi, en fait, je sais, moi.
Ouais, dans le
moi,
jeu.
Je ne sais pas, mais
moment,
je sais quand même.
Un moment, on trouve un kit médical. S'il le prend, il est un petit peu spécifique. Ça va lui remettre le point américain d'emblée, d'office. Par contre, il va taper plus fort, plus vite.
Bon, ouais, non, il fait très mal et il tue un ennemi en un coup avec un coup de poing.
Ça dépend.
Les ennemis, les soldats par exemple, tu les tues en un coup.
Ouais, ouais, c'est plus bourrin. Mais par contre, c'est chiant quand ils sont à distance, t'as envie de remettre vite l'arme pour tirer loin. Des fois, ça t'handicape. Mais ça te remet 100% de la vitalité.
Mmh. Ça dure combien de temps ?
Oh, ça dure une quinzaine de secondes.
Oh, un peu plus, non, quand même, peut-être.
Oh, je vais pas chronométrer pour être.
Pendant lesquels tu ne peux pas changer d'arme en fait.
Si tu peux.
Tu peux quand même.
Mais ça te remet le point, donc là tu l'as zut. J'étais en train de. Bon. Alors, une particularité de la maniabilité, le jeu est très maniable. C'est une jouabilité qui se fait très arcade si tu veux. Tu peux pas tirer vers le haut, vers le bas.
FPS arcade, pour moi, c'est incompatible.
Pour moi aussi. Mais j'osais rien dire, mais.
Arcade, ça veut dire qu'il se prend en main aussi facilement.
Ouais. Continue.
Contraire d'une simulation.
Continue.
Tu peux pas tirer vers le bas volontairement, sauf s'il y a un ennemi. À ce moment-là, dès que tu le vois, si tu t'alignes sur lui, il adaptera automatiquement la visée.
Ouais, la cam, c'est venu avec Quake, quoi. Il n'y avait pas de déplacement de cam avec Doom.
Non.
C'est pas la première fois que tu me parles de ce jeu, Eddie. À chaque fois, tu me redis toujours quelque chose. Et sans vouloir rentrer dans le débat qui aura peut-être en fin d'émission, tu me dis voilà, moi, pour bien jouer à Doom, je dois changer la configuration des boutons. Je prends pas celle d'origine.
Et
moi, pour les FPS que j'aimais faire, bah, j'ai jamais changé une seule configuration parce
en général,
que c'était
bien intuitif tel
là,
quel.
C'était intuitif. Et là, pour ce jeu-là, tu m'as toujours dit que tu changeais.
Alors ça dépend. Au début, je changeais pas. À un moment, j'ai changé. Effectivement, c'est pas super bien pensé parce que le pad de Nintendo 64, il y a trois embranchements à prendre. Donc, ce qu'il faut prendre avec la main gauche, c'est le stick du milieu pour jouer avec le stick. Et donc, pour strifer à droite à gauche, les déplacements latéraux, de base, c'est L et R. Or, le L, left, il est difficile d'accès si on prend la manette comme ça.
Enfin, il est carrément impossible, alors il faut changer la manette de.
Ouais, avec l'autre main, tu vois, c'est un petit peu handicapant, quoi.
C'est pas qu'un peu handicapant, c'est improbable.
Et si tu joues à la croix ? T'as pas le bouton Z alors ?
Bah oui, si tu joues à la croix, t'as pas le bouton Z, donc c'est pas
du tout.
Non, mais.
À tirer ?
Ouais, tirer. Mais tu peux tirer avec autre chose, mais je crois. Je sais pas si tu peux jouer à la croix.
Je suis même pas sûr non plus.
Ouais, vérifie parce que Duke Nukem sur.
C'est pas impossible que tu puisses, c'est pas impossible. Ce qu'il y avait marqué sur les boutons et.
Maintenant, est-ce que c'est agréable à jouer à la croix ? Je suis pas sûr non plus. Hein.
Pour moi, non.
Parce que ça doit être fluide et le stick permet quand même cette.
Il y a une façon de strifer facilement. T'as un bouton, si tu le fais sans lâcher, après tu peux faire à droite gauche avec les directions, il va strifer automatiquement. Il y en a qui aiment bien ça, moi je suis pas trop adepte.
Ouais, d'accord. Ouais. C'est ça le bouton. Je me demandais ce que c'était dans la config, le bouton strife on.
Ouais, oui, c'est ça.
D'accord.
Et alors, donc à l'époque, je jouais avec LR. Bon, tant bien que mal, j'esquivais surtout vers la droite quand c'était dans l'urgence.
Ouais.
Et maintenant, je règle un peu comme à GoldenEye avec les boutons, c'est droite et c'est gauche qui sont très cibles.
Ils auraient pu
y penser, mais ça se règle dans les options, il n'y a pas de souci.
Ouais, mais c'est là où moi je suis toujours un petit peu choqué de me dire que là, pour que le jeu soit agréable, il faut le régler, il ne faut pas prendre la perte de base.
C'est dommage, ouais.
Bon, voilà.
C'est comme pour Street Fighter sur Super Nintendo.
Ça, c'est toi qui le dis, parce que t'es bien le seul que je connaisse qui change les coups.
Oui. Ouais, mais moi, ça plus pratique aussi. Bon, pour en revenir au jeu, donc le jeu est en 3D entièrement, très fluide, pas de soucis.
En 3D entièrement, j'allais dire.
3D.
J'allais dire, là,
entièrement,
tu nous mens.
Sauf les ennemis et les objets, bon.
Ah, écoute, Eddie, moi, je pense que tu nous en parleras après qu'on ait écouté la musique de fin du jeu de la N64 qui est.
L'émission est finie ?
Non, pas encore, non. On revient après.
N57 Radio. We'll be right back.
Try again. Try again.
On avait laissé tout à l'heure Ellie qui disait ouais, tout est en 3D sauf. Alors, fin du suspense, Ellie, sauf.
Sauf les ennemis, les adversaires.
Ouais, qui sont plats comme du carton.
Non, mais quand dire autre chose comme tu disais plat.
Mais en fait, c'était les précurseurs de Paper Mario.
Non, mais c'est un peu ça quand ils avancent, hein, je trouve. Hein.
Un peu beaucoup même, mais bon. Ah, mais c'est l'esprit de 2D. Alors, ils ont été retravaillés soi-disant pour la 64, mais bon, bref.
Donc, il y a un mélange de 3D qui, visiblement,
raconte-nous,
ne fait pas une unanimité ici.
Raconte-nous.
Ouais. C'est pas tellement d'argent. Ils sont...
Non. Des ennemis plats comme du carton.
Laisse-le faire sa chronique.
Laisse la parole.
En rien à l'ambiance du jeu. L'ambiance qui est oppressante, super glauque. Le jeu est relativement sombre, surtout par endroits. On entend les grognements des démons. Alors là, on sait qu'il y en a encore qu'on n'a pas tué dans les parages. On entend ça. Mince, faut les chercher. Alors, c'est très labyrinthique. Hein. Heureusement, il y a une carte. Donc avec un bouton, on peut mettre la carte.
Lequel?
C'est celui que tu paramètres.
Mais là, ils sont tous paramétrables. Mais celui-là, enfin, moi, je le touche pas. C'est CO, normalement. Si t'appuies une fois, tu vois un petit peu ce que t'as découvert sur la carte en genre fil de fer dessus. Tu peux encore te déplacer d'ailleurs et jouer,
c'est
mais
la
tu vois pas
fois
les ennemis.
Que tu m'as pas envie de le faire, moi, quand je l'ai eu.
Hmm,
c'était ah ouais, la deuxième fois que t'appuies, oui, que tu passes en fil de fer.
Raison, ouais.
La première fois, c'est quoi alors?
Bah, t'as les couleurs des décors, du sol, tout ça, mais vu de haut aussi. Hein.
D'accord.
Ouais. Mais c'est
très ça remplace ta vue 3D en fait.
Ok. Ouais. Tu peux pas faire les deux en même temps sur la version 64.
Et tu peux continuer à avancer alors que tu regardes seulement la map, c'est quand même bien
ça. Là, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que sur la version PC, si je ne m'abuse, tu pouvais donc avoir ta vue en 3D.
Pas la première, je crois.
La deuxième, Doom 2, c'est sûr. En tout cas,
Doom 2,
tu avais ta vision où tu voyais ton arme et tu avais encore superposé
la vision fil de fer.
La vision fil de fer de la map vue de haut. Ça
c'est ça, ouais.
Okay. Mm-hmm. Et là, tu ne l'as pas. Tu as soit
l'un, soit l'autre.
Soit l'autre. Mais tu peux te déplacer dans les deux modes.
Voilà. Ouais, donc, si tu es sur la map, tu joues parce que tu vois là où tu n'as pas été, parce que ça n'a pas encore été découvert. Donc, tu y vas. Et si tu y a des ennemis, tu les vois pas tout de suite. Donc, faut se méfier.
Faut tendre l'oreille, quoi.
Mais ce qui est bien dans ce jeu, c'est que quand on se perd, il y a toujours cette map et c'est vraiment salvateur. Il y a plein de jeux où tu n'as pas de map comme ça. C'est une horreur parce que tu tournes en rond pendant des heures. Ça n'a pas un sens de l'orientation.
T'as un exemple ?
Doom 3.
Non mais c'est vrai que
il y a beaucoup d'exemples.
C'est vrai que si t'as pas, enfin dans les jeux, bah, je sais pas, moi je me rappelle plus que dans, par exemple dans Wolfenstein 3D à l'époque,
il y a une map.
Si,
ouais, sur Super il y a une map.
Super, mais
là sur PC je suis plus sûr. Dans la version Super NES il y a une map. Moi je pense à Turok, il y a une map. GoldenEye n'a pas de map, ça c'est vrai.
Est-ce que ta map elle gère les différents niveaux, puisque on peut monter, descendre dans des niveaux différents de jeux. Est-ce que ta map elle gère ces niveaux là?
Non, il faut faire gaffe.
Il faut faire gaffe.
La map est en 2D. Ah oui, tiens.
Donc voilà, donc la map elle te sert, mais pas tant que ça finalement.
Si. Franchement, c'est clair.
Si,
clair.
Mais c'est pas grave. En fait, quand tu rentres un obstacle que tu vois que tu bouges plus sur la map, c'est que t'es bloqué par un objet 3D. Quoi.
Et il te montre aussi les petits passages, genre les portes cachées. Donc ça apparaît en jaune où tu peux interagir dessus.
Les portes cachées apparaissent toutes là-dessus
Pas toutes, mais une majorité. Hein. Une grande majorité, ouais. Oh, c'est quand même.
Enfin, alors du coup, c'est un peu moins caché, quoi.
Ouais, bah il faut quand même que ce soit possible, qu'on soit pas obligé de faire tous les murs du jeu pour pouvoir ouvrir les portes.
C'est vrai.
Donc maniabilité simplifiée au maximum pour une prise en main facile et rapide. Le jeu est très rapide, contrairement aux FPS actuels qui sont plus réalistes. Là, tu peux vraiment courir vite. Quand t'as tes passages avec de la lave, par exemple, ou de l'acide, si tu cours dessus, si tu marches pas trop longtemps dessus, tu perds pas de vie.
Ouais, c'est vrai que c'est speed.
Ouais. Dans tous les Doom, je crois que t'as un bouton courir.
Oui, c'est fort possible.
Sinon, t'as pas besoin de recharger les armes. Donc, tu tires tes munitions limitées, mais si tu passes sur des cartouches, ça va recharger automatiquement. Pour les boutons, t'as deux boutons pour changer les armes, un pour aller dans un sens, l'autre pour aller dans l'autre sens. Donc, au bout d'un moment, on a le pli, on sait qu'on est sur le fusil, on appuie deux fois, on retombe sur le pistolet, par exemple. Voilà. Sinon, il y a le système clé. Alors, souvent, dans les niveaux, il y a trois clés, maximum d'ailleurs.
Rouge, bleu, jaune.
Ouais, exactement.
Classique. C'est les Power Rangers.
C'est un truc pour apprendre les couleurs. La clé jaune ouvre.
La porte rouge.
La porte jaune.
Ah oui, si t'as mis télé noir et blanc, ça marche moins bien.
Ah ouais, du coup là t'es foutu. Hein.
Ah t'essayes. Ouais. Bon, ça a été relativement critiqué. J'ai vu sur internet des gens qui disaient ce qui est dommage dans cette version, le Doom 64, c'est que des fois tu trouves la clé rouge, tu vas ouvrir la porte rouge qui est juste à côté de la porte bleue, et finalement juste derrière la porte rouge, t'as la clé bleue. Donc ils auraient pu simplifier ça des fois. Bon, pas très gênant.
C'est un peu nounouille, quoi.
Je le disais aussi.
Ouais. Bah, mais bon, fais pas ta critique, Ellie. Laisse-nous-en, hein, parce qu'il va falloir qu'on.
Mais j'essaie d'être objectif.
D'accord.
Moi, c'est un des jeux sur Nintendo 64, mes jeux fétiches. C'est vrai, hein.
Ouais.
Ok, c'est ton point de vue.
Ouais, non, mais ouais.
C'est ton point de vue, vas-y, continue.
Alors, c'est un jeu qui utilise des mots de passe. Donc, c'est des mots de passe assez longs, qui sont à 16 caractères. Alors, bon.
Mais moi, il m'a demandé de sauvegarder. Il n'y a pas une sauvegarde ?
Non. Pas sur Doom 64.
Il voulait créer un bloc. Ah, mais alors, c'est peut-être juste les paramètres qui peuvent sauvegarder ? Il m'a demandé de créer un bloc de sauvegarde sur ma carte mémoire.
Ah, possible.
Parce qu'il n'a pas de cartouche intégrée, mais apparemment.
Il n'a pas de carte mémoire sur une 64.
Ah. Non, mais t'es sûr qu'il y a un truc pour sauvegarder ?
Ouais, non, tu peux pas sauvegarder les niveaux, ça c'est impossible, ça c'est une certitude. Maintenant pour la configuration,
peut-être que d'accord, ouais, peut-être
parce que moi je sais qu'il m'a demandé si je voulais continuer sans sauvegarder ou sans créer de bloc de sauvegarde.
Non, la première fois que tu mets le jeu, ouais, c'était le truc qui peut te demander le.
Bon,
ouais.
Soit.
Alors, le gros défaut du jeu, je vais peut-être pas vous le dire, non.
Ah bah, c'est toi qui en parle, alors vas-y.
J'ai décidé de faire la critique de ça, donc je vais être objectif.
Mais en fait, t'es plus contre le monde, tu es avec le monde, non?
Non.
Pas encore, pas. C'est pour la fin.
Je soutiens à 100% Doom 64. C'est pour moi un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. Et je ne pense pas que je change d'avis de sitôt.
Soit.
Donc le gros défaut de ce jeu.
Ah voilà.
On l'a pas encore.
C'est que on peut pas jouer à plusieurs. Il n'y a pas de mode multi. Malheureusement.
Oui, ça, c'était sûr que c'est un de nos arguments principaux, hein, comparé à la concurrence. Bon, enfin bon.
Ça manque, ça aurait été vraiment génial. Sur PC, il y a. Sur PlayStation, tu peux jouer à deux, mais il faut deux télé, il faut le câble, il faut deux PlayStation, il faut deux fois le jeu. C'est un petit peu galère.
Pour en revenir à la concurrence par rapport à ça, il y a d'autres jeux qui n'avaient pas de mode multijoueur, je pense, dans Turok 1.
C'est sûr. Mais voilà. Ils avaient d'autres choses.
Ah, mais c'est pas ce que je dis, c'est pas le point de vue. Hein.
Le rock, ça tue. Turok.
Bon.
Alors,
je vais vous parler un petit peu des ennemis qui sont dans le jeu.
Ils sont beaux ?
Ils sont laids.
Non.
Ils sont laids, mais c'est une qualité.
Tu sais, alors c'est pas une critique, mais c'est vraiment ce que ça me fait penser. Je sais pas si vous lisez Kid Paddle. Ouais, Kid Paddle, ouais. Souvent, il récupère dans les magasins de jeux vidéo des grandes affiches en carton
des
de monstres. Ça me fait exactement penser à ça. Ils sont plats comme eux, ils sont moches comme eux. C'est pour moi, c'est
toutes
ça.
Les femmes plates ne sont pas moches.
C'est pas des femmes, c'est des monstres. Ellie, s'il te plaît.
D'accord, tout ce qui est plat n'est pas forcément. Ouais, c'est pas grave.
C'est pas le débat du jour. Continue.
Alors, les ennemis.
Doom.
Donc, il y a les anciens humains, les sergents anciens humains, donc les peons de base avec un fusil, un shotgun. Il y a les lutins. Bizarre, bon.
Les lutins, ils ressemblent à quoi, les lutins ?
C'est cette nains avec Blanche-Neige.
Lutins, c'est une espèce d'humanoïde avec quelques pointes qui dépassent, des griffes, des grandes dents aiguisées. Des grosses tablettes d'abdos, parce que ça on les voit bien avec les gros pixels. Hop, coup de fusil, pompe dans les abdos.
Arrête de te casser le truc, il ne restera plus rien pour après.
Mais c'est une qualité quand on voit les abdos, je sais pas.
Ellie aime s'autocasser, continue, vas-y.
Alors, Doom 2, il y avait les anciens commandos, donc les mecs avec la grosse mitrailleuse que tu pouvais récupérer quand tu les tuais, mais ils sont pas dans cette version, malheureusement. Il y a les démons qui sont de sorte de petits minotaures roses qui te foncent dessus, qui attaquent corps à corps.
Notez le code couleur quand même.
Ouais.
Rose égale danger dans Doom.
C'est mignon. Il y a les spectres qui sont les mêmes mais en version presque invisible. On les entend grogner, on dit ah, qu'est-ce qui se passe, tu le vois pas, tu te fais bouffer la gueule, tu te dis ah, bah, tu tires, ah bah il y avait un spectre devant moi.
Quand tu dis presque, comment est-ce qu'on peut les voir alors ?
Non, ils sont. Ben, quand ils bougent.
C'est comme le camouflage optique du Predator.
Voilà, d'accord. C'est un peu flouté là où ils passent, donc on les voit quand même.
Et s'ils sont immobiles et qu'ils tirent dessus, tu les vois pas alors ?
Sauf quand c'est des floutages en gros pixels.
Ils font que corps à corps. Hein.
Tu vois plus de gros pixels qu'ailleurs.
C'est ça, voilà.
C'est rare qu'ils soient à l'arrêt aussi.
D'accord.
Dès qu'ils te voient, ils te foncent dessus. Il y a les âmes perdues. Alors ça, c'est des espèces de crânes avec des cornes qui volent, qui te foncent dessus et qui essaient de t'enlever de l'énergie comme ça. Alors dans Doom 3, ils sont bien mis en scène parce que en fait, quand t'as des gens, ils leur foncent dessus et ils prennent possession de leur corps et c'est comme ça qu'ils les rendent zombies, la zombification. Voilà, on va passer aux gros monstres maintenant. On a les cacodémons. Alors les cacodémons, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de boule toute rouge avec une grande bouche, un seul œil et des cornes. Et ils rotent des gaz enflammés, si tu veux.
Ils rotent.
Les cacodémons. Ça, j'aime bien parce que quand tu les abats, ils sont très résistants, mais quand tu les abats, ils s'écrasent au sol et t'as les organes qui tombent. L'œil qui sort. C'est assez gore. Mais c'est ça qui est jouissif dans le jeu. On a aussi les chevaliers de l'enfer et les barons de l'enfer. Ça, c'est des minotaures, ni plus ni moins, très grands, très balèzes, qui te balancent des boules d'énergie à la figure.
Des boules vertes, non?
Ouais, et rouge pour les barons. Alors, quand il y a un baron de l'enfer qui vient, même si t'ouvres un passage, tu l'entends, il fait... Alors, t'as les boules, tu dis, non, un baron de l'enfer, est-ce que j'ai un équipement? Vite, il faut que je prenne la grosse arme.
C'est la grosse arme. Il fait trop bien.
il est dedans, vas-y.
Il y a les arachnotrons. Alors, c'est des cyber-araignées, un corps... Pourquoi vous rigolez?
Non, continue.
C'est de ma faute, c'est à cause de la lumière.
C'est Nelly qui est en train de faire sa mamie.
Elle s'est déguisée en arachnotron.
C'est bon.
Donc on a un arachnotron avec nous dans le studio.
Ce sont des mitrailleuses doubles. C'est une espèce d'araignée robot avec un... Au milieu, c'est biologique. C'est un petit peu bizarre comme mélange. Hein. Alors, il y a les élémentaires de la douleur. Alors ceux-là, ils génèrent des âmes perdues qui vous foncent dessus. Donc faut les buter en priorité, sinon ils en génèrent de plus en plus. Alors un ennemi qui a été enlevé de la version 64, c'est les revenants, des espèces de grands squelettes de démons qui ont été tués et que les autres ont remis sur pied. Et ceux-là, ils ont des missiles à tête chercheuse. Donc voilà, manque sur 64, c'est bien dommage.
Moi, je me souviens avoir fait Doom 2, je vois à peu près tous les ennemis dont tu parles, mais est-ce qu'il y a des nouveaux ennemis dans cette version N64 qu'il n'y avait pas avant?
Oui.
Si oui, desquels?
Oui, attends, je vais vite faire le
t'as pas encore fini avant, excuse-moi.
Non, il y a quand même un certain nom, attention. Il y a les Mantibus, qui sont des espèces d'humanoïdes, mais très baraques, très gros, très grands, ouais. Et qui ont à la place des bras des lance-missiles. Mm-hmm. Qui est un peu dans tous les sens, et... très résistant, évidemment. Les Archvilles, ça, un des pires ennemis, dont Mantis, ils disent une de ses qualités, c'est sa rareté. Une espèce de magicien qui essaie de t'enflammer à distance. Ils peuvent réanimer aussi les ennemis. Mais celui-là, il n'est pas dans la 64.
D'accord.
En gros, tous les ennemis qui ont la classe, ils sont pas dans la 64.
Ah, tu trouves que les ennemis, ils ont la classe, c'est gentil.
Non, mais j'ai jamais dit. Bah oui, ceux qui sont pas dans Nintendo. Ok, d'accord.
Ah là là. Et on trouve le gros boss, le cyberdémon. Alors ça, c'est... comment dire, c'est comme un chevalier d'enfer, mais beaucoup plus grand, en moitié cybernétique, avec un bras robot comme Cobra, c'est qu'il y a des gros obus. Il est super super résistant, il faut plus de 40 obus pour en venir à bout. Ouf, c'est du sport. Et donc les ennemis qui ont été rajoutés dans ce jeu, c'est... il y a une sorte de lutin un petit peu différente, qui sont un petit peu invisibles. Ouais, ça change pas énormément, mais c'est une nouvelle sorte. Et il y a la mère de tous les démons, qui apparaît aussi dans ce jeu, Mother Démon. Alors celle-là, c'est le boss de fin qui ressemble à un alien en très très gros, avec pas mal de bras, qui flotte au-dessus du sol, qui tire dans tous les sens. Il faut le combattre pour comprendre.
D'accord.
La mère de tous les démons. Ouais. Mm-hmm. Je vais vous parler un petit peu des stages qui m'ont plu dans le jeu. Alors il y a tous les stages classiques qui s'enchaînent les uns après les autres sans problème, parce que moi je trouve que ça se boit comme du petit lait.
Ouais.
Et il y a les stages pour les super players. T'as par exemple Cat and Mouse. Cat and Mouse, est-ce que c'est comme stage que j'en ai parlé ? Voilà, bonne traduction. Alors, en fait, c'est un espèce de labyrinthe, avec quelques petits ennemis qui te balancent.
Ah, c'est tous des espèces de labyrinthes si tu vas par là, mais bon, qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là en fait ?
Ouais, alors celui-là, il y a un cyberdémon qui a le pouvoir de se téléporter. Donc ça fait un peu le jeu du chat et de la souris. Donc faut essayer de récupérer les munitions, parce que c'est très limité, tu peux te permettre. Tu sais, comme il faut 40 obus pour le tuer,
ouais.
Il y en a 46 sur la map. Donc faut que tu trouves bazooka et que tu trouves les munitions adéquates, que tu le manques pas trop. Et surtout qu'il se téléporte pas pour apparaître derrière toi pour te désinguer, parce qu'en généralement en un coup t'es mort s'il vise juste.
Ah oui, d'accord.
Donc ça c'est du gros challenge, j'ai mis assez longtemps à le finir ce stage. Ensuite il y a d'autres stages intéressants, il y a Hérétique qui est pour moi le plus difficile.
Tu dis que c'était un stage bonus ou non?
C'est un stage caché en fait.
C'est un stage caché, ouais, ouais. Tu y accèdes comment?
Alors dans un certain stage, il faut faire une manipulation spéciale. Par exemple, il y a une porte qui s'ouvre, tu sais, elle s'ouvre horizontalement et verticalement, en deux parties. Si tu ouvres la porte, tu te mets là où elle se referme. Au moment où elle se ferme, elle te fait lever un peu, tu tires, à ce moment-là, ça va ouvrir par exemple une porte cachée, à un certain endroit. Faut un peu connaître, hein.
Ouais, faut te dire.
Tu l'as trouvé tout seul ou par une astuce quelconque que t'as vu dans un magazine sur internet?
Oh, j'ai tout trouvé.
Ce magazine.
Tout seul, voyons. Non, en fait, moi, ce que j'avais fait à la base, c'est que j'avais pris des passwords sur le net pour ces stages.
Pour y arriver.
Ouais, j'avais pas trouvé autrement. Ensuite, j'ai vu sur le net comment on faisait.
Mais tu les as pas trouvés comme ça, quoi.
Non.
Ouais, bon, bah, soit quoi.
Ok, ouais. Non,
le gros challenge, c'est aussi de les finir. Donc, il y a le stage hérétique, qui est pour moi un des plus durs de l'histoire du jeu vidéo. Du moins, un des plus durs que j'ai réussi à faire. Alors, simple, il y a trois portes. Dans chaque porte, il y a une clé au bout. Et c'est gros challenge. Tu commences, t'as juste le pistolet de base. Alors première porte, il y a trois araignées qui te désinguent à fond dès que tu prends la clé. Et faut que tu récupères dans un coin de la pièce, déjà faut connaître le lance-missile, faut que tu fasses le tour de la pièce pour récupérer les munitions, leur tirer dessus sans qu'ils soient trop proches, sinon tu t'en prends plein la gueule, tu me rectes. Donc c'est assez chaud. Deuxième porte, les espèces de cubes qui montent et qui descendent, qui font le sol de la pièce. Faut aller au fond de la pièce et revenir pour prendre la clé. Et la difficulté, c'est qu'il y a des espèces de pièges qui te lancent des fléchettes un peu à tout va et qui font très mal. Donc celui-là, en gérant, en faisant doucement, il y a moyen de ne pas se faire toucher. Et le troisième, alors là, on rentre dans la pièce. Il y a de la lave par terre. Un long couloir qui mène au fond. On y va, on prend la clé. Qu'est-ce qui se passe? La porte se referme, grand classique. Et de chaque côté, il y a deux minotaures qui te tirent dessus. Le problème, c'est qu'ils tirent dessus, c'est que s'ils te touchent, ils risquent de pousser dans la lave. Donc tu meurs direct. Donc faut tirer dessus, de préférence avec le bazooka, parce que le pistolet pour en venir à bout c'est long et t'auras pas assez de munitions. Donc avec le bazooka t'as aussi un recul. Donc, si tu tires et que t'es pas bien placé, tu tombes aussi dans la lave. Donc c'est très difficile.
Ouais, c'est vicieux.
Petite astuce pour ce stage hérétique, c'est que il donne plein de bonus au début du stage, mais en fait tu peux pas les prendre. Genre t'as la boule d'énergie, la sphère spirituelle qui te double l'énergie, enfin ça donne 200%. Mais si tu la prends, tu meurs, c'est un piège. Donc on se dit d'emblée, tout ça c'est des pièges. Mais pas du tout. Moi j'ai réussi à récupérer l'armure. Au-dessus, il y a une armure qui traîne comme ça. Et au-dessus, il y a un bloc qui descend quand tu prends l'armure. Alors ce qu'il faut faire, c'est y aller très rapidement, avec un super timing, et tout de suite reculer. Là, tu peux voir l'armure. Petite astuce.
Ça marche pour tous les bonus ou que pour ce bonus-là?
Que pour celui-là. Et j'ai vu nulle part sur internet où ils l'ont trouvé ça.
Wow.
Je suis peut-être le seul à le savoir.
Tu l'as pas mis sur ton site?
Non, il l'a mis sur fakeman.com.
J'en parle à la radio, c'est déjà pas mal.
Tips Magazine.
Ouais. Il y a le stage hardcore aussi, où il y a des mancubus qui tirent dans tous les sens, ils apparaissent. Il y en a plein. Et là, c'est vraiment du gros bourrinage, le contraire de l'infiltration.
Oui, enfin, de toute façon, l'infiltration dans Doom, c'est pas trop ça. Quoi,
eh ben, si, en fait. Si, si, parce que t'as des boules qui te rendent invisible. Et les ennemis ont du mal à te voir. Et dans ce cas,
mais
tu
ça,
peux
c'est
jouer...
pas de l'infiltration.
Tu peux jouer un petit peu l'infiltration.
Ça, c'est de l'invisibilité.
Ouais.
C'est pas de l'infiltration.
Non, mais c'est pour être discret et passer certains ennemis sans forcément avoir besoin de les fighter ou voir les avoir par surprise. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu rapidement des autres versions. Donc, il y a la version Super Nintendo. Donc, j'ai pris beaucoup de musique comme. Comme elles sont sympas. Et les versions GBA, j'ai fait que le 1 sur GBA, il y a le 2 aussi. Il y a Doom 3 qui change radicalement, qui est sur PC, Xbox entre autres. J'ai pas aimé parce qu'il n'y a pas de map, on se porte facilement, il est très sombre, il m'a donné beaucoup de fil à retordre. C'est les versions PlayStation et Saturn qui peuvent se jouer à la souris. Hein. Et bien sûr les versions PC, le 1 et le 2. Voilà.
D'accord. Bah écoute, comme tu nous as parlé à l'instant, la version Super NES, on va réécouter une musique, parce qu'on a déjà écouté une première avant. Ce coup-ci, c'est Sign of Evil, c'est toujours fait par Robot Prince. Et après, on va revenir avec notre fil rouge de la soirée, le débat Ellie versus The World. Le débat que tout le monde attend, et vous pourrez y participer sur le chat, je vous invite à le faire, parce que nous, on sera là pour le refaire.
Soutenez-moi.
Ou pas.
N57.
Un maximum de musique.
N57 Radio. It's and Move.
Prestart. Génération Prestart.
Et nous voici enfin de retour pour la dernière partie de ce Try Again. Un Try Again sous le signe de Doom. Doom et de Ellie avec Doom.
C'est pas un poisson d'avril.
Non, non, c'est pas un fake. Hein, c'est pas un fake.
Tout Doom.
Et moi je donne la parole à Lionel qui nous a préparé un beau débat ou des questions d'auditeurs, je ne sais pas. Et
déjà
pas
je commence par les questions d'auditeurs effectivement. Donc on a une première question de Eh oui c'est moi qui est arrivée maintenant depuis quelques semaines ou quelques mois sur
un
notre
forum. Un très bon forumer moi j'aimerais
un
dire.
Un très bon forumer, ouais, effectivement. Alors qui pose la question suivante, quelles sont les améliorations, les différences avec le premier Doom sur SNES, donc sur Super Nintendo?
Alors déjà, ils ont changé tous les niveaux. On n'en retrouve plus aucun qui est identique.
Oui, bon.
Encore heureux.
Oui, encore heureux.
Ensuite, c'est pas un portage, c'est un nouveau jeu, quoi.
Oui, voilà. Au niveau de la maniabilité, là, c'est la grosse différence. Parce que pour moi, il est beaucoup plus jouable que sur Super Nintendo. Super Nintendo, il avait tendance un petit peu à s'accrocher dans les murs. Là, c'est beaucoup moins le cas.
Ouais, enfin, ouais. Oui.
C'est joué. Et ils ont rajouté pas mal d'ennemis aussi. Les gros, surtout. Les gros ennemis.
Ouais.
Sur Spantano, on trouvait le cyberdémon. Là, on le retrouve en version un petit peu améliorée. Bon, graphiquement, le jeu a beaucoup été retravaillé. Ce qu'il y a sur Super Nintendo, c'est que le jeu était pas mal pour l'époque parce que techniquement, afficher de la 3D où tu peux revenir, tout ça, c'était pas évident. Ils ont réussi cet exploit technique sur une 16 bits.
C'était pas ni le seul.
Non, c'était pas le seul.
Performant, quoi, à ce niveau-là.
Si, sur Super Nintendo aussi. Il y a Wolfenstein 3D, il y en a d'autres. Il y a Jurassic Park, c'était quand même, celui-là était plus abouti au niveau de la 3D.
Jurassic Park, c'est pas la 3D sur Super NES, mais pour revenir sur la vidéo Oui c'est moi, j'ai lu récemment un avis de sa part pour Doom Super NES qui considère comme un jeu culte à ses yeux, mais ça il le considère uniquement parce qu'il s'est amusé à chercher tous les pourcentages et tous les secrets dans les niveaux. Alors est-ce que toi tu as eu ce côté aussi, envie de chercher tous ces petits secrets là dans la version 64, et si oui, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Est-ce que ça rend le jeu plus intéressant de chercher vraiment ce qu'il a jusqu'au bout?
Il y en a qui s'amusent. En fait, il y a des statistiques après chaque niveau qui dit combien d'ennemis t'as tué, le temps que t'as mis, et
le pourcentage d'items.
Secret et items. Donc en fait, il y en a qui poussent ça à fond. Moi, j'ai pas tout trouvé à 100%, loin de là. Il y a les niveaux secrets, j'ai regardé plus sur le net pour les découvrir, parce que c'est quand même chaud à trouver. Non, moi j'ai pas fait le jeu à 100% non plus. J'ai fait tous les niveaux, mais.
Mais disons que t'as pas pris plus de plaisir dans le jeu parce que t'as cherché les secrets.
Non, d'accord. Pas tous.
Ouais, bon, sinon, une petite question d'Alex. Quelle est la spécificité de Doom 64 par rapport à ses concurrents de l'époque comme Exen, Duke Nukem 3D ou Quake, justement?
Ouais. Bah déjà, il est mieux que Doom 63.
Qui n'existe pas.
Oui, c'était une petite blague.
Bah, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit, hein. Ouais. Enfin. Déjà, les différences de niveau, ça c'était quand même un plus.
Ouais. Il y en a dans certains, il y en a aussi, mais le multijoueur est apparu avec Doom, et ça on n'avait pas avant, et c'est assez important. Sur PC, hein, à la base.
Ouais, Quake, sur PC. Quake, il y avait aussi un mode multi.
Ouais, mais Quake est apparu après, en fait.
Ouais. Enfin, à l'époque. Non, mais là on parle de Doom 64 par rapport à Quake.
On parle de Doom 64, pas de
Doom le premier.
Alors, Quake sur 64, j'y ai joué, il ressemble beaucoup, il est aussi très glauque. Franchement, la maniabilité est très proche. Pour moi, il est sympathique aussi. Hein.
Mais ouais. Hey, mouvement de cam, quoi.
J'ai plus flashé sur la version de Doom 64 que Quake.
Notre question de Alex, enchaîner sur notre débat. Peut-on dire que Doom 64 est l'un des plus beaux jeux de l'Amstrad?
Alors, tout à fait. Parce qu'en fait... Tout à fait, parce qu'en fait, il y a des démo-makers allemands qui sont amusés à faire Doom sur Amstrad.
Mais pas Doom 64.
Mais pas Doom 64.
Ah, non, pas du tout. En fait, c'est pas vraiment un jeu. Il y a de super musique, il y a une page d'intro, et après, c'est image après image. C'est-à-dire, c'est juste des images, et encore, les couleurs sont en Amstrad, donc sont pas super détaillées.
Bref.
Mais c'est une démo, c'est pas jouable.
Ouais, non, c'est pas jouable. On reconnaît les monstres quand même, c'est sympathique, voilà.
Bon, bref, donc pour en revenir à notre débat Ellie versus The World, nous on a quand même principalement
overkiffé le jeu, mais je sais,
ouais, bien
c'est,
sûr,
ouais. C'est obligatoire.
Comme tous les joueurs de Nintendo 64, quand on parle d'un FPS sur Nintendo 64, on pense pas à Doom, quoi. On pense au fameux GoldenEye, par exemple, qu'on a fait
en tout premier.
C'était notre premier jeu.
Ils ont que quelques mois de différence.
Ils ont que quelques mois d'écart. Et alors, que les choses soient bien claires, hein. Je suis pas anti-Doom tout. J'ai passé des super bons moments sur Doom sur PC à l'époque de la sortie du premier Doom. Et puis j'avais fait même Final Doom un peu avant aussi. Je veux dire, j'ai joué à cette époque-là. Doom, j'ai bien apprécié. Mais ce que je reproche concrètement à Doom 64, par rapport à ses concurrents de l'époque, hein, par exemple si on passe sur le plan de GoldenEye, c'est que je trouve qu'il n'apporte rien. Alors je sais pas si vous êtes, enfin si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, mais au niveau de la maniabilité, au niveau du level design ou autre, je trouve qu'il apporte strictement rien par rapport aux anciens Doom.
Il perd même des choses, je trouve, parce que par exemple Lando en bas avec le personnage qui commence à s'ensanglanter quand il se fait taper.
Ça c'est pas sur 64.
Ça c'était vraiment caractéristique choses,
de
trouve,
la version de Doom, et je trouvais que c'était ce qui rendait un peu le charme de Doom.
Ouais, c'est sympa.
Qui faisait le charme de Doom d'avoir son personnage avec sa tête là qui se dégrade.
J'avais aimé ça dans Doom 2 aussi. J'ai fait GoldenEye après, et pourtant j'ai trouvé qu'une évolution, enfin que je trouvais GoldenEye était vraiment une évolution du FPS et qu'on passait à autre chose.
Ouais.
Et là, quand j'ai un tout petit peu joué à Doom 64, le peu que je n'ai joué, j'ai pas eu envie.
Ouais, enfin,
ça donne pas envie de jouer, contrairement à d'autres jeux que t'as envie de voir la suite. Là, non, quoi, ça m'a
donne pas envie. Et même des fois, on n'y arrive pas à y jouer parce qu'on se rend malade tellement la caméra elle tourne.
Ah ouais,
dans
non,
tous
mais
les
moi
sens,
j'ai essayé de m'y remettre. Et pourtant, je suis un gros joueur FPS en ce moment, je joue quand même pas mal à ce genre de jeu.
Ouais.
Je crois qu'au bout d'un quart d'heure, enfin franchement, si vous y jouez, hein, si vous prévoyez d'y jouer, sortez le sac à vomi.
C'est
quoi,
parce que les ennemis ils sont trop horribles, ils font vomir.
C'est l'ambiance du jeu, on va dire ça comme ça.
J'ai pas de souvenir où ça m'a rendu spécialement malade.
J'avoue que j'avais peut-être mis la sensibilité un peu élevée, mais franchement, le côté labyrinthique de je tourne en rond là pendant 3 heures pour trouver la pauvre porte cachée,
tout
le pauvre interrupteur, tout se ressemble partout, les textures sont moches.
Pas partout. Si tu progresses dans le jeu, tu verras qu'il y a des niveaux. Moi aussi, je pensais au début que tout était pareil, mais ils sont très
niveaux,
différents. Il y a des châteaux.
Si t'as pas la map, en fait, tu te perds pas parce que c'est labyrinthique, tu te perds parce que dans le monde, tout se ressemble.
Non, ça va encore. Le GoldenEye, ça se ressemble beaucoup.
On va pas dire
c'est vrai,
qu'il est un mec de la bonne foi.
Les monstres en
2D, je trouve ça un peu limite aussi.
Non, ça passe. Moi, ça me dérange pas.
C'est-à-dire que
c'est toi qui es habitué, Ellie aussi.
C'est pas que ça passe ou que ça passe pas, mais c'est qu'en comparaison, je veux dire, avec un GoldenEye où les ennemis étaient modélisés en 3D, alors certes,
un Turok,
avec la localisation des dégâts et des choses comme ça, là, t'arrives, t'as un ennemi devant toi, tu tires. Faut juste qu'il soit devant toi, t'as même pas à viser à droite, à gauche, la tête, le machin. T'as pas de headshot, Ellie.
Alors en fait, si tu tires plus au centre, c'est plus efficace qu'un peu sur les côtés.
Oui, donc c'est ce que je dis, il faut qu'il soit en face de toi, point.
Ouais, c'est centré quoi.
Est-ce que si l'ennemi est en face de toi, tu peux le louper?
Si t'as une arme qui tire pas
donc...
à distance, oui.
Ouais,
bon.
On a compris.
Si tu veux, je veux dire, moi j'ai joué au Doom 1, j'ai joué au Doom 2, j'ai joué à Final Doom, j'ai vraiment apprécié cette série Doom. Avant, j'avais même joué au Wolfenstein et tout ça. Mm-hmm. Et si tu veux, bon, ça restait du Doom. Hein. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait des gros bons en avant, je trouve, au niveau évolution, à part un peu les graphismes, mais encore, entre Doom 1 et Doom 2, c'est pas grandiose. Mais globalement, je trouve que Doom 64, en console, et avec quand même 4 ou 5 ans, 4 ans, je crois, ou 5 ans de plus, non, 5 ans même.
Ouais, 97.
Ouais, donc bon, il avait quand même quelques bouteilles de plus. On aurait pu se dire qu'ils auraient pu un peu s'inspirer de ce qui était déjà. Brock, il me semble qu'il est sorti quand même en début de.
Premier jeu de la console.
Je veux dire, ils auraient pu un peu regarder ce qui se faisait à droite ou à gauche, quoi. Parce que, je veux dire, en comparaison, il n'y a rien.
Mais si, il y a Duke Nukem, les ennemis sont en 2D aussi.
Oui, alors enfin bon.
Ouais, mais Duke Nukem apportait l'amélioration de pouvoir se baisser, sauter, tu gérais quelque chose en plus quand même.
Tu faisais dans Duke Nukem.
Mais là, une différence, c'est que la prise en main se fait beaucoup plus rapidement.
C'est normal, c'est un
avantage indéniable.
Tu fais que tourner droite gauche, t'as pas d'orientation spatiale. T'es orienté en deux dimensions en fait quoi. Tu te déplaces sur un plan horizontal et c'est tout ce que tu fais.
T'es en train de nous dire que la 3D elle sert à rien de jeu.
Non, pas du tout.
Attends, Ellie, tu mettrais sur le plan avec la possibilité de tirer, le jeu il reviendrait.
T'as des sauts à faire. Hein.
Il est fait tout seul.
Non, il est fait tout seul. Tu cours et à un moment, si
ça passe un précipice.
Il saute. Ça s'appelle se sauter.
Il y a de la 3D.
Les vrais passages de plateforme en saut, c'est dans Turok. Là, t'as à faire.
Mais c'est pas un jeu de plateforme, Doom. Hein, ça,
ah non, bah, ça c'est
ah
clair.
Non, on lui demande pas ça. Hein.
Ça c'est pas ça.
Mais globalement, je trouve quand même qu'il y a un problème, quoi. Je veux dire, moi, ce que je lui reproche clairement, c'est aux développeurs de pas s'être dit, ah bah tiens, regarde ce qui se fait un peu à gauche ou à droite. On pourrait peut-être pousser un peu la, la, je suis désolé mais avec ce jeu la console elle est loin d'être poussée dans ses retranchements.
Ah oui, hein. Elle est pas poussée dans ses retranchements. Alors là, spécialement mais le jeu est fluide du coup. Le jeu est fluide, ça c'est.
Non mais après je veux dire tu prends un GoldenEye, il est fluide aussi, tu prends un Turok, il est fluide aussi.
Ouais, mais dans Doom 64, il y a aucun ralentissement. Quand tu joues à GoldenEye, bon, c'est sûr qu'à 4 joueurs.
À 4 joueurs en multijoueur, ça peut l'aider. Tiens, parlons-en du multijoueur.
Pour faire ralentir, ben il faut avoir beaucoup d'ennemis à l'écran parce qu'il peut, enfin je dirais voilà, si tu fais des vagues d'ennemis à l'infini,
à l'écran et surtout les explosions, la gestion des explosions qui ralentit. Mais franchement, c'est quand même rare de voir des ralentissements quand tu joues solo. Après en multijoueur, je dis pas, mais parlons-en du multijoueur. Tu sors un jeu sur une console qui a 4 ports et dont le principe de la 64 c'est d'avoir 4 ports manettes quoi et de jouer à 4. Pourquoi tu mets pas un foutu mode? En plus, je veux dire, comme on disait tout à l'heure, la console est loin d'être poussée dans sa retranchement. Pourquoi tu mets pas la possibilité de jouer à 4 quoi?
Alors, je vais faire ma mauvaise foi de contredire en disant il y a un magazine qui a dit qu'il y a un mode où tu peux jouer à 2.
Ouais, bien sûr. Je suis d'accord. Et même si à la limite, effectivement, ils avaient pas voulu mettre un mode à 4, au moins un mode à 2 joueurs, bon sang quoi.
Bien sûr, ça
on est sur Nintendo 64.
Et même Turok a pas de mode 2 joueurs, moi personnellement, je trouve plus meilleur. Mais ça, après,
les suivants ont eu des mode multijoueur.
Ça ne reste que mon avis. En attendant, eh ben, on va se quitter sur ce débat qui n'est loin d'être clos et on a bien compris que voilà, on est tous pas forcément du même avis qu'Elie, mais après, Elie a son avis, on a le droit de l'avoir. Le temps pour moi de vous dire que la semaine prochaine, on se retrouvera pour Secret of Mana, un jeu de légende, tout simplement, que je décortiquerai et que vous nous retrouvez sur notre forum, sur le Facebook, un peu partout. Jouez bien, ressortez vos cartouches, on vous laisse avec Scud en vrac après. En attendant, on va écouter une musique qui s'appelle Nobody Told Me About ID.
Bisous.
Ciao.
Salut.
M57 Radio.
M57 Radio.
Génération Prestart.
Génération Prestart.
Game over.